Avertissement. Ars Macabre est une émission axée sur la musique et la sous-culture métallique qui se veut totalement libre, sans filtre ni censure. Ce rituel musical se veut un hommage à ce style musical dans toute sa grandeur. Nous tenons quand même à vous informer que tous les propos contenus dans les pièces présentées dans cette émission sont uniquement ceux de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement la philosophie des animateurs, des chroniqueurs, des commanditaires ou des autres partenaires d'Ars Macabre. Vous êtes avisés.
Salut les métalleux et bienvenue à Ars Macabre, épisode 258. Vous êtes avec Matraque encore une fois et je suis accompagné, comme à l'habitude, de Sarah. Salut Sarah!
Bonsoir!
Et donc, je veux saluer les gens qui écoutent depuis CJMD à Lévis. On salue également ceux qui écoutent depuis CFRED dans le Grand Nord ainsi qu'à CIBL pour la grande région de Montréal. Vous êtes salués, chapeau bien bas. Et donc, je disais, aujourd'hui, c'est l'épisode 258. Et là, ben la semaine passée, on se demandait, on se dit, ah, c'est au mois de mai à peu près là, le Ars anniversaire de Sarah.
Et, c'est le 17.
C'est le 27.
27.
Mai. Sauf que j'ai vérifié mes affaires et en fait, tu es rentré à l'épisode 158. Fait que c'est ton centième.
C'est mon centième! Hé! Hey! Tu m'as fait la surprise!
Ouais!
Wow!
Tantôt, j'ai manqué à le dire. Je fais, ah non, je te dis pas.
Ah, je suis contente!
Fait que c'est ton centième épisode d'Ars Macabre.
Centième sur deux... Okay, mais...
C'est deux ans. C'est deux ans.
Tu me toffes pas fait.
Ouais. Écoute, j'allais dire la même affaire.
C'est réciproque. Vous pareillement.
Yeah! Yeah!
Ah, je suis vraiment contente.
C'est ça. Ça fait deux ans que ça arrête avec nous. Puis, ben, en fait, t'es rentré pour faire les chroniques bières. Et ensuite, t'es devenu co-animateur. Ça n'a pas été long, je pense, après à peu près un mois.
Un petit peu plus, mais ça n'a pas été long que j'étais tout le temps là. J'étais Gino-Chouinard.
Et donc, ben c'est ça. Vous aurez, pour les gens qui écoutent le show depuis deux ans, ben vous aurez entendu la touche de Sarah. C'est quelque chose qui revient souvent. Hein, les gens disent « Ah oui, Sarah, je l'aime bien. Ses chroniques sont cool puis ses commentaires sont pertinents. » Fait que tu vois...
Ah, ben, moi, j'étais fière.
Ouais, ouais.
Non, ça sert à de quoi chialer, ouais. Mais avec de la bonne humeur.
Donc,
merci, c'est un plaisir.
On soulignera la date officielle, le 27, mais écoute, c'est un chiffron, là.
Oui, ça, mais hein.
C'est très bon.
Je suis vraiment contente.
Je te dirais que, hey, c'est vrai, t'es la seule co-animatrice que j'ai eue dans le show que t'as fait aussi longtemps.
Fuck you, Stan!
Ouais, Stan est rentré au comme 75 puis il est parti au 124.
OK, OK.
Fait que, ouais, mais c'est ça.
Quand même. Ouais, mais écoute, je passe à l'histoire.
Yes! C'est ton moment. C'est ton moment.
Ben oui, je chaîne.
Comme dirait Jeanne, mais quel bestiau.
Bestialité!
Et là, ça m'amène à la thématique de ce soir. La thématique, c'est bestiaire. Et bon, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi un bestiaire, vous aurez peut-être fait le raccourci rapide de bête. Donc, c'était des petits des livres à l'époque qui répertoriaient autant les vrais animaux que les animaux imaginaires comme les phénix et les dragons.
Ça disait « Regardez-moi la taille de cet animal! »
Écoute, ça dépend c'était qui le moine trappiste qui avait fait la dédicace au début.
Oui.
Mais c'est ça, un bestiaire, en fait, c'est un espèce de recueil où vous aviez des informations sur les différents animaux et tout. Et ben la thématique de ce soir, c'est ça, c'est des chansons qui vont parler d'animaux.
Ben c'est ça.
Fait que il y a tout le temps le serpent, là. Tu sais, dans le métal, le serpent, c'est très, très... c'est un thème récurrent.
Ben
t'as le pendant aussi, le dragon.
C'est l'espèce de... Ouais, c'est vrai, le dragon aussi.
Ben, c'est parce qu'en fait, le serpent puis le dragon, dans les différentes cultures, c'est souvent la même incarnation, disons-le comme ça.
Ouais, mais tu sais, l'espèce de crâne de chèvre.
Ben oui, le Baphomet.
Voilà.
Tu sais, c'est... Oui.
Mais tu sais, c'est ça. Baphomet, mais l'animal.
Moi, c'est sûr que si j'ai une chèvre, elle va s'appeler Baphomet.
Ouais, hein?
Ah, oui.
Baphomet.
Ouais, Baphomet. Ah ouais, oui. Je veux une femelle, je veux faire du fromage avec ça. Ça irait mieux, disons.
C'est sûr.
Bref, thématique du bestiaire ce soir. Et pour ce qui est du reste du show, ceux qui sont abonnés au compte Instagram, vous aurez vu passer les choix de Sarah pour cette semaine. Donc, encore une fois, trois Alexandres. Excellent.
Trois Alexandres, Alexis.
Oui. Écoute, nafre sort de cette langue fourchue.
Ouais.
Et c'est ça, trois bières du terroir québécois
les
avec
Sarah.
Les choix
de Sarah pour cette semaine. J'ai comme mis un zoomé.
Et il va y avoir également PY qui va être avec nous pour une de ses chroniques, justement, de... J'oublie tout le temps le nom de cette affaire-là.
Les éphémérides.
Éphémérides, oui. Ouais. J'avais Almanach, ça n'a pas rapport.
Ou
ça a pas
trouve
rapport.
Le lien avec...
Trouve le lien alambiqué ouais. de l'éphéméride de PY.
C'est ça.
Ouais. Et il y a également Valérie qui va nous faire la chronique Extremo. On parle littérature avec... un peu plus tard dans le show. Et ben pour ceux qui, encore là, sont abonnés au compte Instagram, vous aurez vu c'est quoi l'ouvrage dont on va nous parler. C'est un, je crois que c'est un roman qui s'appelle Le Plongeur.
Tout à fait.
Et il y a déjà des commentaires puis qui commencent à rentrer. Donc, c'est ça. C'est le pacing du show de ce soir. Et là, ça nous amène à notre question de la semaine. On l'a-tu? Oups, on l'a pas.
On ben, peut la poser pareil, puis on va la mettre après.
Ben on peut quand même... je ferais peut-être un retour avant sa semaine passée.
Ah, c'est une bonne idée. Ça.
Parce que... La semaine dernière, il y a vraiment eu beaucoup. On vous demandait, là, la thématique, c'était 2007. Puis on vous demandait où est-ce que vous étiez en 2007? C'était quoi que vous faisiez?
Qu'est-ce que vous faisiez?
C'est ça.
Et il y avait 57 commentaires.
Il y a des réponses qui ont rentré jusqu'à hier. Fait qu'on avait fait, évidemment, un retour en fin de show. Mais il y a beaucoup, beaucoup de stock qui est rentré cette semaine. Puis, ben justement, parce que vous avez fait l'effort d'aller commenter, on va aussi faire le retour là-dessus. Peux-tu nous en lire une coupe, Sarah?
Oui, bien, on a Stéphanie Masson qui dit les mêmes bons coups et niaiseries qu'en 2022, avec quelques raideurs musculaires au réveil en moins.
C'est ça.
On a Mathieu Roy qui nous disait « Terminé le primaire et commencé le secondaire. » On a Chris qui disait « Qu'est-ce qu'il faisait, lui, dur? » ensuite de ça... Je finissais mes études universitaires. Je quittais mon appart de la rue Saint-Jean pour Limoilou, 4e avenue. Je commençais à jammer du black metal après avoir fait du punk et du hardcore. Mm-hmm. Fait que, ouais. Ensuite de ça, Jenny McZombie nous dit, je squattais chez ma cousine et je travaillais sur ma BD avec mon ami qui n'a jamais vu le jour dû à un bug fatal de mon ordi. La vie de bohème, quoi? Ensuite de ça, Simon Leclerc nous dit « Je travaillais depuis un bout sur les chantiers de construction commerciaux de Québec. Je faisais du kayak d'eau vive, le camping. Camping, ski de fond et même du sexe. C'est fou pareil!
» Écoute, j'allais dire qu'on y souhaite, mais j'espère que depuis le temps, c'est ça.
Ça fait 15 ans.
On y souhaite que ça n'a pas été un one-shot deal.
C'est ça. Ensuite de ça, que je pourrais bien dire? Je buvais! Gabriel qui dit « je buvais ». Il y en a plusieurs que je vois que ça fait comme 6 jours, etc. Et il y en a vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Mais moi, je pense que vous devriez juste vraiment vous y rendre. Peut-être que vous connaissez du monde là-dedans puis aller fouiner. Là.
Yes. Parce que c'est ça, là. Il y a du monde qui commentait puis t'avais du monde qui sous-commentait. Tu sais, ça a engendré pas mal d'interactions.
Ouais, c'est ça. Vraiment.
Fait que ça vous tente d'aller faire un tour sur la page Facebook pour lire ça.
Oui.
Et sinon, la question pour l'épisode de cette semaine, là, elle n'est pas encore sur le Facebook, mais puis ouais, il est là-dessus. En ce moment. Donc, c'était quoi la question, Sarah?
Quel animal incarne une symbolique particulière pour vous? Donc, c'est assez clair.
Si vous avez un tatou quotidien, c'est le genre d'affaires que le monde se font tatouer souvent. Mais j'ai pas une réponse là. Ah, ouais. En tout cas.
Pensons-y.
Ouais. On fait un retour à la fin du show. Je me garde ma réponse pour la fin du show.
C'est bon.
Good. Toi, as-tu une réponse là ou?
Ben, le lion, je te dirais en général, là, parce que c'est le même que je marche dans la vie. Je suis assez. Je fonce dans le tas. Je suis assez protectrice. Merci avec les gens que j'aime, les autres qui mangent de la merde.
Ouais.
Puis, c'est ça. Ça me ressemble pas mal.
Si ma tante Sarah vous a dans le collimateur.
C'est ça.
Vous êtes fait. OK. Donc, vous pouvez aller commenter sa page Facebook.
C'est mon signe zodiaque aussi.
En plus, OK. Ouais. OK. Ben, moi, je suis vierge, mais de signe seulement.
D'accord.
Alors, c'est ça. Sur ce, on s'en va au bloc publicitaire, puis on vous revient avec du beat. Et vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabra, épisode 258. Et là, on y va tout de suite en musique avant la chronique bière. D'ailleurs, pour les gens, vous pourrez nous joindre tantôt pour la chronique bière sur les Facebook et ton tube de ce monde.
Oui.
Mais avant, on y va avec deux bandes. En tout cas, le deuxième titre, c'est de quoi qui m'avait vraiment accroché quand c'est sorti. Puis le premier, j'avais trouvé ça bon. Je m'étais dit, bon, c'est du bon death de là-bas. T'sais, on connaît en Norvège pour le black metal, mais tu sais, il y a d'autres choses aussi.
Il se passe autre chose comme ça.
C'est ça. Fait que, bref, premier bloc musical, quand est-ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
En Norvège, on va entendre Feleth. Et ça, c'est sorti en 2020 sur l'album Depravity. Ce qu'on va entendre, c'est Ravenous. Et juste après, c'est en Islande. Donc, le band Forti. Et donc, ça, c'est sur l'album, toujours 2020, World Serpent, pardon. Et c'est Perfect Annihilation.
Your flesh, my bearing by your face, satisfied, your death, sorrow, strife, sadness, abandoned on your own, sadness, deep pain, marination of your pain, strife, sadness, abandoned on your own, sadness, deep pain, revival for your pain. Body out of court. One body in its own sword. Revelation for a love. One of our ways of pleasure. They gonna kill it easy. Midnight of the booty. Wasted of bloody. Just your conscience brings the pain. Also, thoughts break up and pass the place.
Ça, c'est de la fin.
Ça finit bien.
Yes!
Tu le sais que c'est fini, là.
C'est ça. Hein? On passe à un autre appel.
Ah oui.
Et l'autre appel, ça passe sur les Facebook et les Tontubes live de ce monde, parce qu'on s'en va à la chronique bière. Et donc, Donc, ben, comme je disais tantôt, on a encore une fois 3 bières ce soir. On y va avec la première.
La première, c'est la Saura ou la Saura. Saura, je ne sais pas comment le dire. Okay. Ça vient de Livingstone Brewing. Okay. Donc, ça, c'est à Franklin, c'est vraiment sur le bord des lignes. Okay. C'est au Québec, mais vraiment entre Montréal, l'Ontario, puis vraiment sur le bord des lignes.
OK, OK.
Très, très, très sur le bord.
C'est le coin, mettons. Ouais, c'est ça, Ontario, États-Unis.
Oui.
OK.
C'est ben, vraiment entre les deux. Okay. Et donc, c'est une farmhouse. C'est une bière fermière Tchouvache. Ça, dans le fond, c'est origine de la Russie occidentale. C'est une collabo avec la brasserie La Ferme.
Okay.
Ben, en fait, ils ont pris leur malt de seigle qu'ils ont fait cuire selon une méthode vraiment traditionnelle.
Okay.
Et ils ont aussi une levure qui provient de la Tchouvachie.
Okay.
Et c'est 4,5% d'alcool. Et c'est 5,49 à la boîte à bière.
Ça sent bon, hein?
Oui.
Ça sent très bon.
Bien, à l'œil, on a un beau... c'est une bière qui est quand même dorée, mielleuse, très voilée. Elle n'est pas complètement opaque, mais très voilée. Un bon collet de mousse blanc cassé, mettons. Il n'est pas blanc. Il n'est pas blanc nacré, là. C'est sûr que quand je sépare la bière, là, on le voit peut-être un petit peu moins, là, quand même, là, sur les tons tubes. Mais...
mais et ça donc, le fait, ça le fait. C'est un jaune moins malade là, que la première de la semaine passée.
Ah oui, oui.
On est dans le jaune avec plus de caractère.
Définitivement.
Ouais.
Et voilà, donc on a des bulles qui sont quand même bien denses. Ça gomme quand même bien le verre. Texture pas trop mince malgré une bière pâle, je trouve.
T'sais, c'est pas effervescent beaucoup, mais un peu quand même.
Oui.
Moi, je vois encore de la bulle passer. Là.
Oui. Et on est...
Si ça se voit à télé, mais... Ça cache bien ma face, en tout cas. Au nez.
Au nez, on a un petit côté épicé. Je m'attendais à du stock genre levure belge, tu sais, farmhouse. Je me suis dit peut-être un peu... Non, on a le fruit, on a un côté citronné.
Mais c'est pas la... C'est ça, c'est le citron...
Plus sauvage.
Oui, hein? Ben, sauvage. J'allais dire, c'est... on n'est pas sur les brettes.
Non.
Mais il y a quand même... Ça pourrait être bretté.
Ça pourrait, oui.
Ça pourrait.
Mais c'est vraiment le côté sauvage qui est présent. Et donc, belle acidité. Belle acidité. Ça sent le champ. Hein? Ben, farmhouse. Hein? Ça le dit. Belle acidité, ça donne un petit kick.
Est-ce que je repense au punk et que ça sent la merde. Excuse. On n'est pas là-dedans. Là. Hey, mais non. C'est bon, ça.
C'est très bon.
Très, très
sérieusement,
bon.
Sérieusement, c'est... Ça donne un petit kick, comme je disais, l'acidité. On a un côté fruit, de la vaille, on a un côté épicé, mais genre gingembre frais, là.
Oui.
Tiens, ça, moi, c'est dans mes coups de cœur de l'année. Cette bière-là, une finale bien sèche, pas trop sucrée. On dirait que c'est comme une farmhouse qui se rapproche vraiment, vraiment plus de la lager.
Ouais, c'est... une finale sèche, pas sûr.
Moi, je trouve qu'il y a
petite, j'ai vraiment
un petit côté
citronné à la fin qui reste.
Moi, je trouve qu'il y a une petite finale, là, peut-être après quelques gorgées. Là, pas, je te parle pas d'une finale, tu sais, je te parle pas de quoi de trop crispy non plus.
Ouais,
là,
ouais, ouais, ouais.
Mais on a un petit côté sec, pas piqué les verres. Hein, pas, c'est le fun. Moi, je l'aime bien. Puis, c'est vraiment un beau coup de cœur pour moi cette année. Je te dis, c'est pas sucré, ça tombe pas sur le cœur. Il y a un côté comme, quand je dis que c'est finale plus sèche, c'est peut-être qu'il y a un côté maltais vraiment intéressant. C'est boisé,
mais
sauvage,
c'est
là,
quand
très
même,
doux.
C'est ça, c'est
frais.
C'est subtil comme bière. Je trouve que ça fait bière de souper ou bière c'est... d'apéro. Là.
Oui, ben, c'est parce que c'est l'acidité aussi. Là. C'est un goût que je connaissais beaucoup moins.
Okay.
Et donc, l'effervescence n'est pas très intense, mais il y en a quand même. Puis il y a une petite texture huileuse aussi.
Mm-hmm. Super intéressant. J'aime bien.
Ouais. Avec ça, des tortillas. Tortillas, pain de maïs. Vraiment, là. Pas tortillas.
Non, pas des cochonneries achetées.
Sélection, là. Non, là, un vrai de vrai. Tacos fruits de mer, coriandre fraîche ou juste avec des frites de polenta. C'est clair que cette bière-là, je vais en racheter. Je vais en racheter, ça va faire mon été, ça va. Je vais m'en procurer pas mal.
Ouais, puis j'ai le feeling que pour des températures chaudes, c'est le genre de bière qui est très peintable.
Définitivement. Définitivement.
Peux-tu me rappeler le nom de celle-là?
La Saura. S-A-U-R-A. Ah.
On les salue.
Oui, c'est de chez Livingstone Brewing.
Parfait. Et ça, ça nous amène à ta deuxième bière.
Les bons voisins de chez Lagabière. Et donc, les bons voisins, oui, c'est Lagabière, mais c'est une collabo avec Overhop. Okay. Et donc, c'est pour leur série 10e anniversaire. Et ils ont décidé de faire...
Ça fait déjà 10 ans.
Lagabière, oui. Ouais, hey, on est vieux, hein? Bon, alors...
J'ai deux, trois c'est... poils blancs qui viennent de me pousser, là. Mais semblait que tu m'aurais dit 5 ans, j'aurais fait OK, mais... OK, 10
non,
ans.
Non, série 10e anniversaire. OK. C'est je me trompe pas, j'ai vraiment regardé cette canette pour être sûr. Non, non, c'est le 10e anniversaire. Et ils ont fait une collabo avec Overhop, qui est aussi à Saint-Jean-sur-Richelieu. Okay. C'est pour ça qu'ils appellent ça les bons voisins. L'étiquette nous dit « Juicy New England IPA à la goyave ». Et c'est un 6% d'alcool, 5,99 à la boîte à bière. C'est un orangé, vraiment là, avec un petit bitume, petit bitume sur le top. L'huile on
huileux,
top.
Hein? Ouais, pis oui, puis ça a l'air vraiment à coller sur le verre, là.
Ça gomme quand même pas pire. C'est bien opaque.
Tu as un côté résineux à ça, ou...
Un peu, mais okay, pas tant. Quand je te dis l'étiquette nous dit... Juicy New England IPA à la goyave, et ce qu'ils nous disent pas... Ben, ils disent, mais pas sur le devant, faut lire l'étiquette, que c'est un assemblage New England IPA à la goyave et de kettle sour. Alors, on a une bière sour de l'acidité. Moi, je prends pas le petit dringling.
Pour vrai?
J'ai pas trippé tant. Tu sais, en fait, ça mène, là.
Ouais.
C'est ça. Moi, ben, c'est vrai que j'avais pris une bière hyper résineuse avant. Là,
ouais,
je les ai comme mis dans l'ordre. Là.
Ouais.
Mais c'est... est bonne, mais honnêtement, ça m'a comme déçu. Mettez-le sur l'étiquette live, là.
Si tu sais quoi je trouve cool, moi, ça goûte le smoothie sans les mottons.
Oui, ben là, les smoothies, moi, j'ai la texture m'écœure souvent, là.
Ben, non, mais c'est ça, sans les mottons. Je trouve qu'il y a un côté, puis ça a de la texture, là, c'est plus épais que ça a l'air. Ça colle sur le verre, mais c'est vraiment plus... crémeux en bouche.
Pas une tripeuse de goyave, moi, ça a l'air. Mais
je suis pas tant un tripeux de bière aux fruits, mais sérieux, là, oui.
Ben, coudon. Mais c'est un peu de houblon, ça sent citronné. Au nez, là, ça sent. Au nez, ça sent la sour.
Ouais.
Ça sent la Lagabière. La Lagabière commence un peu comme Noctem, un peu commence à sentir, je suis capable d'y reconnaître, là. Ça sent sucre.
Ouais.
Ça sent vraiment sucré. Oui, c'est houblonné, c'est fruité. Goyave, on sent pas grand-chose. Là. C'est fait avec du houblon Pink Boots, qui est créé pour souligner l'impact de la gente féminine dans l'industrie brassicole. Alors ça, ça gagne déjà beaucoup de points pour moi. En bouche, c'est très frais.
Tu connais Prospecteur?
Oh, hein?
Tu connais Prospecteur à
Val-d'Or? Oui,
oui. Les autres aussi. Je pense que le brasseur principal, c'est une femme.
Ah, ça se peut, il y en a beaucoup?
Oui, oui, oui.
Beaucoup plus qu'on pense.
Je trouve ça, oui, c'est surprenant.
Très frais, un peu d'amertume. Pas pire amertume, mais c'est parce qu'après ça, le fruit tropical vient comme tout ramasser. Mais le fruit tropical, on n'a pas trop d'ananas, on n'a pas trop de mangue. C'est vraiment juste comme un fruit. Il n'y a pas un punch assez impressionnant à mon goût, mais une acidité qui est présente, mais n'est pas trop intense. En fait, j'aurais juste aimé ça la boire avant ma bière plus houblonnée juicy. T'sais, moi, on me vend New England IPA juicy. À goyave, là, je dis, ben ouais, ça va être tropical. Là,
okay,
ça
c'est New England IPA. J'avoue que ça goûte pas tant la New England IPA.
Ben, c'est ça. On me vend ça sur
le
dessus.
Ouais,
le dessus de l'étiquette, c'est New England IPA juicy à la goyave. Et il faut qu'on lise en arrière pour savoir que c'est un assemblage avec kettle sour. Fait que moi, quand j'ai vu New England IPA puis j'ai pris une gorgée de ça, j'ai dit, c'est pas eu, là. C'est bien trop surette, cette affaire-là. C'est bien trop. Fait que c'est pour ça que j'ai été déçu, là.
Je comprends que ça respecte pas le style.
Ben, tu sais, c'est comme liller l'étiquette en arrière.
Mais la bière
focasse,
en soi,
là,
ça le fait.
Mais
là.
Quand même, j'ai fait, bon, OK, bon, mais je garde. C'est pas de la bullshit, là.
Non,
ça, je dis.
Mais c'est sûr, c'est comme si tu me dis que tu me sers un stout, tu me donnes une scotch ale, ça goûte pas le stout.
Ben, tu sais, même si t'as des grains de café dedans, machin. Non, tu sais. Mais voilà, donc très frais. Ben, c'est ça, ça a comme scrappé mon goût. Tu sais, parce que moi, je m'attends à me. Tu sais, je me fais un ordre, là, souvent, là, quand je bois beaucoup. Fait que maintenant, je vais pas prendre un. En tout cas, moi, je vais pas me prendre un stout pour commencer la soirée.
Les instruments sont à jour.
non, mais tu sais, je te pointe un peu du doigt, là, ça, je vais pas commencer ma soirée avec un stout. un petit stout à l'avoine peut-être. Là.
Écoute, mais... c'est toujours un bon moment pour un stout.
Oui,
moi,
mais
si j'apprends une bière, d'autres... même si c'est au mois de juillet, là.
Oui, sauf que pour l'équilibre des bières, tu sais, enfin, malgré que
oui,
je vais la prendre dans le milieu pour couper, mais je vais pas commencer avec ça.
Ouais.
Mais regarde. Bref, ça a juste comme scrappé mon ordre. C'est juste ça. Là. C'est pas moi qui est trop, genre. By the book, là. Mais bon, pour le reste, fraîcheur, bière d'été, texture un peu plus épaisse, facile d'accès, entrée de gamme pour les bières qui sont justement houblonnées, mais fruitées. Tu sais, y a beaucoup de personnes qui trippent pas tant sur le côté houblonné et plus résineux, fait que je pense que ça va bien. Avec ça, bagel, saumon fumé, fromage à la crème, oignon rouge, c'est frais, pique-nique, salade de pâte aussi, ben intéressant. Alors, c'est la 10e anniversaire, mais en fait, c'est les bons voisins. C'est une série, tu sais, ça fait partie de la série, là. Il y en a d'autres.
Il y en a d'autres. Excellent.
Yes.
Et ça nous amène à ton troisième choix.
Mon troisième choix, l'an 8000 de Rollbock. Rollbock, ils ont un nouveau logo, hein. Je sais pas, là, on le voit pas, on le voit pas présentement, mais ils viennent de changer d'identité visuelle.
Okay.
C'est Mimi. C'est mignon, ça fait. C'est juste qu'il faut. C'est comme tout orange et blanc, là.
C'est mignon, mais moi, il y a une affaire, j'ai remarqué dans les dernières années, là, toutes les compagnies de bière qui changent le branding sont rendues avec un branding de marde.
J'aime pas ça. Mais...
OK, c'est aussi un branding de marde?
Ben, pas comme Dieu du ciel, là, ça, c'est de la grosse marde.
C'est exactement ce que j'allais dire.
Non.
Mettre une tête sur une ceinture, là, c'est comme non.
Non.
Même un enfant
correct,
maternel qui fait pas de tronc, tu lui enlèves des points. Là.
C'est correct, mais tu sais, il faut changer de temps en temps. De temps en temps. Quand la recette est gagnante, t'es pas obligé, mais je pense qu'il y avait le goût d'un vent de fraîcheur, puis c'est correct. Là.
Une rafraîchicoupe.
Ouais, c'est ça. Rafraîchicoupe.
OK.
Et donc, l'an 8000 de Rollbock, c'est la bière à mon oncle Serge, en fait.
Qui, ce soir, joue à Lyon, en France. Ouais.
Pour vrai.
On le salue.
Bon, ben, on le salue.
Ouais. Sérieux, là, c'est. Je trouve que c'est un des personnages, parce que c'est un personnage.
Ben oui.
Là.
Ben oui.
C'est un des personnages dans la musique québécoise qui a quelque chose de différent. T'sais, il est vraiment. Il suit son chemin depuis le début.
Ben, il fait comme il veut.
C'est la tune de Maiden, là, de Loneliness of the Long Distance Runner.
OK. Ben,
moi, je vois mon oncle Serge.
Ben oui.
Gars, il a tout le temps continué, il fait ses affaires, il a plein de formules, il s'adapte. C'est un gars super versatile qui s'adapte à toutes les situations. Tu veux un show tout seul, je vais t'en faire un. Tu veux un show avec un Big Ben, on va en monter un.
On va en monter un avec Anonymous, on va le faire.
T'sais, c'est ça, tu sais. Fait qu'il ait fait une collabo avec Rollbock, c'est comme.
Ouais, mais en plus.
Ça fit.
Ils l'ont approché en disant qu'est-ce que tu bois, toi? T'sais, je dis, ben, je fais une sorte d'affaire, mais tu sais, il dit principalement avant mes shows, moi, je bois du café. Fait que, tu sais, puis pendant le show, puis après, là, je vais boire de la bière, tu sais. Fait qu'ils ont fait, ah, OK, fait qu'on va se faire une bière au café. Fait que l'an 8000, c'est son dernier album. Mm-hmm. Et en fait, on va te faire un stand au café. Puis, c'est correct, ça va comme mixer mes deux haleines que j'ai pendant le show.
God.
Fait qu'on a un 4,5% d'alcool, 4,29 à la boîte à bière, très abordable. Bien noir.
Une petite flaque d'huile sur le top.
Oui. Oui, plutôt un collet plutôt couleur cendrée goulue. Texture qui semble assez ronde et laiteuse malgré que c'est un 4,5% d'alcool. Je dis pas que c'est une bière très, très, très épaisse.
Non, mais ça colle au verre.
Mais oui. Puis on est grosse torréfaction.
Mm-hmm.
Ah oui.
On est dans le gros café.
Le café, puis c'est malté, le grain là, qui est vraiment rôti, limite brûlé.
Mm-hmm.
Très, très le fun. Et en bouche, ben là, directement, on a. Le café, mais petite infusion avec un peu de sucre, on dirait. Là. Mais c'est pas, ça tombe pas sur le cœur, mais directement à l'amertume du café.
C'est quand même frais,
mm-hmm.
malgré le fait que c'est torréfié. Tu sais, des fois, ça tire sur le fumé, mais il y a vraiment une finale fraîche.
Fraîche, puis la rétro-olfaction donne un beau chocolat noir. Donc, quand tu respires... quand tu expires... T'as vraiment le goût du chocolat noir qui est là.
Mm-hmm.
C'est pas une bière qui va râper la langue, là, tu sais, qui va être super intense dans son dans sa texture puis dans son attaque.
Mais je trouve ça cool parce que la texture fait que c'est limite peintable. Là.
Ouais.
Tu sais, c'est pas un gros start à dessert, là, mettons.
Ah ben non, puis c'est 4,5%.
4,5, bon.
4,5, là. On a le côté, une légère acidité vers la fin, qui, mais avec un café bien corsé. Vraiment, limite espresso, là, tu sais. Mm-hmm. Et plutôt, on n'est pas sur le grain de café, on est dans l'infusion. Mais le côté chocolat noir, là, ça a un goût très, très, très présent. Café, chocolat noir,
c'est... Quand c'est le grain de café, il y a tout le temps un côté... En tout cas, moi, je trouve qu'il y a une finale comme sablée.
Ouais.
Tu sais, dans le fond de la bouche. Ouais. T'as pas ça, là. Ce qui me fait croire que c'est infusé, justement.
Exactement. Ouais. Et donc, une bière tout en simplicité. Je serais pas gênée de servir ça à des invités ou de prendre ça au bar. C'est certain que... Bon, là, je l'ai servi. Je l'ai servi, elle est un peu fraîche. Mais je pense que c'est pas grave, pour vrai, là. Comparativement à d'autres... Si je l'avais servi comme vraiment tablette... Ça aurait été, oui, on aurait eu peut-être quelques arômes de plus, mais sans plus parce que c'est pas justement un stout dessert sucré.
C'est pas
avec,
8, 9, 10%.
Non, puis tu sais, c'est pas non plus un stout où tu vas avoir des effluves de barriquets ou de boissons fortes. Et voilà, donc avec ça, un beau gâteau au fromage. On remplace notre café par cette bière-là. Ça coupe beaucoup le sucre.
OK.
Et je trouve ça intéressant souvent de remplacer le petit café par la bière parce que ça clôt bien un repas. Puis après ça, mais ça coupe pour laisser de la place à d'autres
choses.
D'autres bières, d'autres alcools ou d'autres eaux.
D'autres verres d'eau.
C'est ça.
À votre goût.
Eau, si ça vous plaît.
Good.
Il faut s'hydrater. Mais donc, voilà, l'an 8000.
De Ralbock.
Ouais.
Et ben vous pourrez voir les étiquettes sur le compte Instagram du show.
Ouais.
Un gros merci, Sarah.
Ça fait plaisir.
La chronique bière d'As Macabre vous a été présentée par la Boîte à bière, située au 1209 route de l'Église à Sainte-Foy, près de Laurier, Québec. Passez voir Vince et toute son équipe pour obtenir des conseils sur les produits disponibles en magasin et pour vous procurer les plus récents arrivages houblonnés de la bière de soif aux élixirs de qualité supérieure des microbrasseries du terroir.
Merci, Nafre. Et là, ben, nous autres, on s'en va au bloc musical avant d'avoir la chronique Extremo avec Valérie au retour. Donc, qu'est-ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
Ça va aux États-Unis. Aux États-Unis avec Hexen. Hexen nous a servi un album en 2008 qui s'appelle State of Insurgency. Et on s'en va entendre The Serpent. We'll be right back.
Salut à tous, ici Mario Duplantier de Gojira et vous écoutez Arche Macabre.
On est de retour. Et là, ben, c'est le moment de nous joindre en Facebook Live parce qu'on s'en va justement jaser à Valérie pour la chronique Extremo. Salut Val, comment ça va?
Hey, salut!
Good. Hey, là, ce soir, tu nous parles... C'est-tu un roman, le livre dont tu nous parles?
Oui, c'est un roman.
OK, parce que, bien, évidemment, à toutes les chroniques, on pose d'avance... En fait, c'est PY qui gère ça. PY pose d'avance l'ouvrage dont Valérie va nous jaser. Et, bien, ce soir, il y a quand même beaucoup de réactions, là, sur le post.
Fait que, les gens ont envie d'entendre.
Yes. Donc, je te laisse présenter ça. De quoi on parle?
Alors, c'est un roman qui est sorti en 2016, qui s'appelle Le Plongeur. C'est un roman québécois, donc qui a été écrit par Stéphane Larue. Et c'est un roman qui a gagné plusieurs prix là, à sa sortie. Il y a eu beaucoup de battages médiatiques autour de ce livre-là. Et je vous présente, c'est pas. J'ai voulu casser un peu là, avec le cycle que j'avais de vous présenter des biographies de groupe. Là.
Okay.
Parce que des fois, c'est le fun d'avoir un peu de fiction puis d'avoir une lecture peut-être un peu plus légère ou en tout cas un peu moins lourde.
Mm-hmm.
Donc, voilà, c'est une fiction. C'est une fiction qui est réaliste. Là. C'est pas de la science-fiction ou de l'horreur. Là. C'est quelque chose de très, très réaliste.
Okay.
Et puis voilà. Donc,
là, moi, quand je vois le plongeur, il y a deux options. On parle-tu d'un dude qui plonge d'un restaurant ou on parle d'un dude qui plonge d'une rivière?
C'est le dude dans le restaurant.
OK. Et donc, qu'est-ce qui arrive à ce dude-là? C'est quoi un peu le frame de l'ouvrage? Y a-tu une trame chronologique? Premièrement, le narrateur, premièrement, il est à quel... C'est-tu un omniscient, c'est-tu au jeu,
c'est ça? Première personne.
C'est au jeu. Donc, en fait, donc, on n'a pas l'impression que c'est Stéphane Larue qui raconte son histoire. Là. Je ne dis pas que c'est le cas, mais on a un peu cette impression-là que c'est au jeu. Donc, en fait, le plongeur, c'est un jeune homme. Je pense qu'on ne sait même pas son nom. En fait, là, c'est un jeune homme début vingtaine, là, peut-être même 19 ans, qui rentre au cégep.
Okay.
Il est à Montréal. Et c'est, je vous présente en fait dans la chronique, je trouve ça pertinent parce que c'est un jeune qui est fan de métal.
OK.
Donc, c'est pas un livre qui porte sur le métal, mais il y a beaucoup de références, là, beaucoup de Slayer, de Metallica, de Megadeth. Donc, les fans là, de la scène, on va retrouver des noms très connus.
OK.
Et c'est un jeune qui aime la science-fiction, il aime les jeux vidéo, il aime Lovecraft et il aime aussi le gambling, les jeux à la loterie.
Okay. OK.
Et puis, donc, il est dépendant de ça. Il s'empête là, dans un cycle de dette, de mensonges. Là. Il s'empiète là-dedans. Et puis, à un moment donné, il faut qu'il sorte de ça. Il faut qu'il trouve un moyen d'avoir des sous. Puis, il se trouve une job dans un restaurant de Montréal qui s'appelle la Trattoria, si je ne m'abuse. Et puis, l'histoire, c'est lui qui rentre dans ce monde-là, le monde de la restauration, là, en plein temps des fêtes, avec les casseroles sales qui s'accumulent, puis le monde un peu chaotique de la restauration. Là, si vous êtes dans ce monde-là, vous avez des gens dans votre entourage qui sont dans ce milieu-là, vous savez de quoi je parle. Là,
Absolument. J'ai travaillé 10 ans en restauration, une époque où j'avais pas de barbe. Là. Et je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus chiant sur la planète qu'un humain qui a faim.
Ah, tout à fait.
Sérieusement, ouais. Là, c'est des conditions de travail de merde. C'est un climat de merde. Tout est de la merde. Même le salaire est de la merde. Puis eux, ils servent de la bonne bouffe.
C'est ça.
C'est vraiment... En plus, hein? C'est un milieu très, très difficile.
Ouais.
Et là, tu sais, je tomberai pas dans la politique, mais dans les deux dernières années, ils se sont fait ouvrir, fermer 52 fois. Écoute, c'est pas un milieu facile, là. Fait que... Bref, si on revient à notre personnage qui rentre dans cet univers-là... Là, tu dis, il y a plein de références au métal. J'imagine qu'on le suit un peu dans son histoire. Puis c'est quoi, il nous partage des coups de cœur?
C'est ça, en fait, c'est son... Oui, ben c'est juste un peu... tu sais, c'est un peu comme j'imagine la plupart des fans de métal. Tu sais, on s'en va à job, puis on a nos écouteurs, puis on écoute Slayer. Puis après ça, en deux cours, là, on regarde le nouvel album là, de Rotting Christ, puis donc c'est ça un peu le métal, et c'est pas le sujet de l'histoire, mais il est omniprésent parce que c'est un des hobbies, là, une des passions du narrateur.
Okay.
Son histoire, c'est vraiment plus dans le milieu de la restauration, lui, puis sa relation avec le jeu, donc avec ses dettes, avec comment il sort de tous ses problèmes, là, de tout le cycle un peu vicieux là, dans lequel il s'est empêtré.
OK.
Puis c'est un roman c'est un roman noir, donc c'est pas vraiment un héros, là, c'est plus un anti-héros, tu sais, qui a bien des problèmes, il y a plein de défauts, il n'y a jamais rien qui marche, il dit des mentries, puis c'est un bon petit gars, on imagine que c'est une bonne personne dans le fond, mais tu sais,
okay.
Il y a clairement des...
ben c'est ça, il y a des petites lacunes.
Il y a clairement des faiblesses.
Des petites lacunes.
OK. Puis j'ai une question aussi par rapport... Là, j'ai vu plein de commentaires passer sur la publication sur la page d'Ars Macabra. Puis, notamment, quelqu'un qui disait, gars, c'est un excellent livre et tout. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que ça, c'est un ouvrage qui est allé chercher beaucoup de monde à cette époque où les gens ne lisent plus?
Ouais.
Je pense que c'est parce que ça dresse un portrait qui est très réaliste, qui est pas embelli.
Okay.
Donc, on voit les gens, là, puis les caractères qu'on y retrouve, là, les caractères, là, je parle en anglicisme, les personnages qu'on y retrouve, ouais. On a l'impression qu'on les connaît, tu sais. J'ai l'impression que tous ces gens-là, là, le cuisinier, puis la serveuse, puis le prof de cégep, puis c'est tous des gens qu'on connaît.
On a des références.
Ils sont tellement réalistes, ils sont un peu clichés des fois, là, mais on les connaît tous, ces gens clichés-là, hein, même que peut-être qu'on en est un nous-mêmes.
Oui, oui. Ouais.
Mais je trouve que c'est réaliste, c'est cru aussi, c'est pas. C'est très urbain, c'est très.
C'est pas romancé. C'est
très, en fait, ce que je comprends, en tout cas, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que ça dépeint un peu une certaine réalité que plusieurs lecteurs vont être capables de se coller à l'histoire, en fait.
Oui, exactement. Okay. Puis, okay. C'est pas. Il n'y a pas de licorne, mais ça, c'est très réaliste. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur mot que réaliste dans le okay. sens où la réalité n'est pas embellie. Ce n'est pas un monde de licorne, mais en même temps, c'est pas horreur, dramatisation incroyable. C'est très. On s'attache beaucoup aux personnages parce qu'on peut s'identifier ou identifier des gens qu'on connaît.
On se dit ouais. que ça pourrait être. Ça pourrait être.
Ça pourrait complètement être nous. Puis parce que c'est au jeu. J'ai senti, puis c'est quand même réaliste. Puis, tu sais, c'est un jeune du cégep. On a tous été au cégep. On a tous eu des jobs d'étudiante un peu crasses.
Ouais.
Donc, on a tous vécu des virées folles au centre-ville, quel que soit le centre-ville. Là.
Ouais.
Donc, je pense que c'est une histoire qui est très. Qui va être nostalgique là, si vous êtes. Si vous avez passé le stade du cégep. Là. En tout cas, au moins, genre, le début vingtaine. Là.
OK.
Donc, je pense que c'est pour ça que les gens se sont beaucoup identifiés. Puis les gens, tu sais, puis le narrateur, là, c'est, comme je mentionnais, c'est un fan de métal, c'est un fan de science-fiction, il aime Lovecraft, il aime les BD des années 70. Ah, ouais. Donc, c'est un peu un nerd, un peu, tu sais.
OK.
C'est pas un gars trendy qui est sur TikTok, là.
OK. OK, puis j'ai une autre question par rapport à ça. Tu disais, shit, je viens d'avoir un blanc.
Ah non!
Bordel, j'ai un blanc! ça m'en revient pas.
Mais les virées folles dont tu parles, là, moi, je trouve ça, tu sais, en ville, justement, se promener, que ce soit dans le domaine de la restauration, peu importe le domaine dans lequel on a travaillé, c'est l'entre-deux, finalement. On est comme dans l'intimité de quelqu'un. C'est comme, tu sais, c'est peut-être des côtés même de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Tu sais, c'est les petits côtés qu'on pense, qu'on voit jamais, finalement, des gens qu'on connaît. Tu sais? Ça, c'est un
côté fun. Oui, c'est le monde de la restauration. Donc, les grandes virées folles sont toujours après les chiffres, là, donc à partir de genre 11h minuit. Donc, c'est un roman qui est très nocturne.
Personne qui se couche à.
Donc, qui se passe le soir.
Ouais,
non,
ouais.
Non, non.
J'ai retrouvé ma question. Dans le fond, là, lui, c'est un auteur québécois, si j'ai bien compris.
Oui.
C'est sorti chez Flamme Noire, qui est en France.
Non, c'est ça? Pas un roman des Flammes Noires.
OK, je pensais que c'était
Flammes Noires. Sorti... Non, pas du tout.
OK,
non.
Ben écoute...
Non, je sais que j'ai attaché aux Flammes Noires, mais moi aussi,
okay.
je suis très au Québec.
Mais c'était ça ma question, en fait. C'est est-ce que c'est quelque chose qui a eu une certaine visibilité un peu ailleurs ou c'est quelque chose qui a plus pogné ici? Parce que moi, tu nous en avais déjà jasé un peu. Là, je voyais les commentaires passer. Je me dis, bon, ça a l'air d'avoir été un hit ici. Est-ce que... Ailleurs, c'est quelque chose qui a été distribué un peu, ne serait-ce que ça soit disponible.
Oui, c'est une très bonne question. Je ne pourrais pas répondre, en fait, à savoir l'envergure là, de la distribution de ce roman-là. S'il est distribué en France, il doit être traduit. Parce que c'est un roman...
OK, il est vraiment québécois, là.
Il est très québécois, là.
Okay. Ouais. Moi, okay.
Oui.
Okay.
Donc, toi et moi, tabarnak. Okay. Donc, c'est beaucoup la réalité québécoise. Là.
OK.
OK. Ah, mais regarde, ça rajoute quelque chose de...
Pour les clichés français, là.
Ouais.
Mais bon. En version originale. En version originale. Non, non. Good. Et là, je veux faire, habituellement, c'est ça, quand on fait la chronique de Valérie, elle nous fait toujours une évaluation sur 5 signets, comme sur Untapped. Donc, cet ouvrage-là, pour toi, ça mérite combien de signets?
Je suis en note 4.
Hey, quatre
signets. Oh, c'est bon, ça. Okay. C'est, je crois que personne n'a mérité 5 signets jusqu'à maintenant.
Hein? Le livre de
Mayhem
a mérité 5
signets. Oui, OK. Ouais. Oui. C'est le seul. Hey,
ouais,
c'est quand
c'est
même le seul. Donc, 4 signets pour Le Plongeur, c'est une très belle évaluation.
Quand même.
Oui, oui, je vous le conseille pour une belle lecture. L'été s'en vient là, avec une bonne bière, là, une bonne rousse là, sur le balcon. Là.
Ah oui.
Good. Et donc, ben, pour les gens qui voudraient voir l'ouvrage, c'est disponible sur le compte Instagram du show avec le code ISBN si vous voulez commander ça. J'imagine que c'est un peu disponible dans plein de librairies.
C'est disponible partout chez vos libraires indépendants. Okay. Là, allez vous chercher ça, encourager la littérature québécoise.
Excellent.
Tout à fait.
Un gros merci, Valérie, puis on te souhaite un bon printemps. Puis,
ben, merci.
On se rejase. L'été va quasiment être installé. Ben oui.
Ben ouais, en bateau, oui. Bateau.
Yes, profitez-en.
Hey, merci, vous aussi.
Ciao.
Merci, bye bye là.
Bye.
C'était donc Valérie depuis son téléphone à poche. Et ben, c'est ça, je vous rappelle, vous pouvez aller faire un tour sur le compte Instagram pour voir l'ouvrage. Et oui. Là, ben, nous autres, on s'en va au bloc publicitaire. Puis, ben, au retour, on aura. On a-tu.
Les éphémérides.
Ouais, hein? Je pense qu'on va y aller direct avec PY au retour. Fait que bref, on s'en va au bloc pub, puis ça continue. Et vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabra, épisode 258. Et là, ben, c'est le moment de nous joindre encore une fois sur les Facebook et ton tube live de ce monde. Parce qu'on va parler à qui, donc?
Monsieur Pierre-Yves. Bédard!
Et c'est pas ce moment que j'abuse de toutes mes pitons et mes affaires.
Moi aussi, oh, il en est
prêt. Mais il est là avec sa belle casquette des Bulls. Yeah!
Ça, c'est ben, c'est sûr.
Ça, c'était une bonne équipe, ça.
Ben oui, mais d'ailleurs, ils ont perdu. Ils s'en vont même pas en finale, les Bulls, en tout cas.
Ouais, c'est une couple d'années. Bon. C'est une équipe de marde, mais le legacy.
Bon.
Ils ont failli aller cette année, mais ils ont perdu. En tout cas, ils sont allés chercher DeRozan. En tout cas, on en reparlera d'un autre podcast.
Ouais, ouais. Écoute, moi, j'ai encore ma calotte avec l'autographe de Butler qui est même plus là, viens. Et là, écoute, on parlera pas de basket ce soir. Donc, on s'en va avec ta première éphéméride.
Alors, je tiens à saluer en début de show à quel point t'as massacré ma chronique encore une fois. Hein? Mais
c'est quoi j'ai dit?
Bon, les faits, les histoires.
Oui, oui. J'avais juste l'almanach. J'étais comme, c'est pas ça.
L'almanach, les éphémérides.
C'est pas un almanach. Oui, oui. Mais écoute.
Alors, le journal des agriculteurs d'Ars Macabre, ça me dérange pas.
Non, mais écoute, ça m'a pris à peu près 22 épisodes à dire submergé par la nouveauté dans ce terrain. Je disais tout le temps inondé par la nouveauté. Là, un moment donné, tu sais, puis ouais, il m'écrit, il dit c'est pas inondé, c'est submergé. Je dis ta gueule, tu pognes un petit bouillon pareil.
Ouais.
Mais écoute, je m'excuse, je l'ai encore oublié, puis là, j'ai fait. Ah, mais la prochaine fois, je vais faire un effort.
Promis. C'est tellement pas grave. Mais bref, le 4 mai 1878, on remonte à loin, là, le phonographe de Thomas Edison est montré pour la première fois au Grand Opera House. Ouais. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le phonographe, plusieurs centaines d'années plus tard, ça devient la table tournante, évidemment.
Exact.
Le gramophone,
qu'on
va exploiter énormément sur Ars Media. Mm-hmm. Alors, le phonographe a été inventé en 1867. Et ce qui est cool, c'est que c'est le premier engin à pouvoir à la fois jouer et enregistrer de l'audio.
Ben oui,
okay.
C'est vrai.
OK. Je pensais vraiment que c'était deux. Tu avais les deux fonctions, mais sur deux machines différentes. Je ne savais pas que tu pouvais le faire. C'était un deux en un, comme un shampoing revitalisant.
Ouais, exactement. Head and Shoulders.
Okay. Oui. Alors, on salue Guy Lafleur avec son Head and Shoulders. Mais bref, les premiers enregistrements du phonographe étaient sur du papier dépeint, okay, roulé en rouleau, donc du papier d'aluminium de nos jours.
Mm-hmm.
Et ce qui est très cool là-dedans, c'est que Edison est arrivé au bureau de la Scientific American, rentre dans le local, met ça sur la table, parle pas, ben relax le gars, et il crinque sa machine. Sa machine dit « Bon matin, comment allez-vous? Aimez-vous le phonographe? »
Wow!
Et là, les gens comme fait « Qu'est-ce qui se passe ici? »
Une connexion directe avec l'au-delà. Ouais, ça, c'est comme le monde qui pensait que le monde à la télé, tu sais, il était dans TV, là.
C'était des petits dans une boîte.
Ouais.
Ben, c'est ça. Fait que le monde était comme « Cette machine-là, c'est une machine à part entière. Qu'est-ce qui se passe ici? » Et là, ça l'a beaucoup évolué. Et là,
j'ai une question. Je sais pas si tu sais la réponse, mais c'est pas une colle non plus, là, mais tu parlais du papier déteint, là. C'est-tu un peu comme, tu sais, les vieux pianos avec la musique, avec les feuilles trouées? C'était-tu là, un peu le même principe?
Ben, je pense que les feuilles trouées du piano, c'était vraiment du métal qui faisait comme jouer des dents sur le piano.
Okay.
Lui, c'était vraiment enregistré sur de l'étain, ce qui fut plus tard...
C'est une captation, là, fait que c'est d'autres choses.
C'est ça.
OK, parfait.
Plus tard, c'était des vibes sonores enregistrées sur de la wax.
Okay.
Et là, pour le lien alambiqué, on parle de papier déteint. Évidemment, maintenant, on parle de papier d'aluminium. Et je suis allé sur Internet, et qu'est-ce qu'on fait avec du papier d'aluminium? Une des utilisations très cool, c'est que...
Le costume des gars de Kiss.
Oui! Mais, en plus, quand tu mets une patch avec un fer à repasser, sur un trou d'un jeans, alors tu mets la patch, le jeans et l'aluminium pour pas que la patch colle sur le dessous du jeans.
Oui, entre les deux, oui.
Oh, OK.
Entre les deux. Okay. Alors, je me suis dit, je vais prendre un band qui est sur ma battle vest, qui est dans mon garde-robe ici. Alors, je parle bien évidemment de Tudor.
Écoute, c'était évident. C'était évident.
Tudor qui est né en Norvège. En 93. Tudor qui est du Norwegian black metal. Et on va aller écouter la chanson Death Wish I'll Burn qui est sortie sur l'album Demonic Possession en 2002, qui d'ailleurs est un des premiers vinyles que j'ai acheté dans ma vie. Alors, ouais. Phonographe, vinyle, mon premier vinyle, Alu, ma battle vest, that's it.
Oh yeah! Puis c'est un album qui est vraiment pogné, là. On s'en va entendre ça. Si vous avez eu la chance de les voir à la Messe des Morts, c'était un excellent show.
Non.
Ouais.
Papi-moi. Et là, j'ai mis la bonne photo, là.
Oui, c'est la bonne, là. C'est la bonne. Et là, on y va avec ton deuxième fait.
Le 4 mai 1932, Al Capone est emprisonné pour évasion fiscale.
Ouais, ça, c'est une des pires jokes du système carcéral américain, là. T'sais, quand t'es rendu à pogner le chef de la PEG de Chicago à cause d'évasion fiscale. En tout cas,
come on.
C'est ridicule.
Mais dans Omerta, ils ont pogné Scarfo, pourquoi?
Pour la même affaire.
Ben, pour la même affaire, voilà.
Pour la même affaire. Ah, Luc Dion s'est inspiré.
Alors, Al Capone commence sa vie dans les petites gangs de New York. Il est barman à Coney Island. Et à un moment donné, il rentre dans une porte, il gosse la sœur d'un gars. Le frère du gars revient, il assène trois coups de couteau à la face. Et à partir de ce temps-là, le gars a le surnom de Scarface, qui va bien évidemment attirer le nom du film de Scarface.
Pacino, ben ouais, Pacino.
Qui est mon film favori.
Mais en fait, en plus, ouais, là tu me dis ça, puis en plus, t'as pas un cadre, toi, de ça dans...
Ben, il est ici.
Ouais.
Il est là, là.
On vous fait une visite de la part à P.Y. Non, non.
Alors, on est ici, le Godfather. Ici, une peinture de crépuscule. Et ici, le Scarface.
Mais oui, tu sais, c'est... Al Capone, sérieux, avait quand même un front de bœuf, là. Puis il s'est fait tasser, il l'a envoyé à Chicago, puis il s'est mis chumé avec le chef de la pègre là-bas, il est devenu son bras droit, c'est un gars hyper loyal. Il a monté ça, il t'a monté les échelons, one shot. C'est-tu Bugsy Siegel? Non, c'était son rival. En tout cas, bref, il a réussi à monter quand le parrain est tombé, tu sais. Il avait réussi à se placer comme le numéro 2 héritier par défaut, là.
Alors, tu viens de dire tout ce que j'avais à dire sur ma chronique.
Pour vrai! Ah non, mais man, le crime organisé, c'est un de mes dadas, man.
Ben désolé. Oui, si, alors, à un moment donné, Al Capone déménage à Chicago, il devient, mais là, c'est important pour les éphémérides, par contre, il devient bandeux dans un bordel. C'est là qu'il attrape la syphilis. Et le gars décide de ne pas la faire traiter, ce qui serait important pour la fin de l'histoire. Et là, de fil en aiguille, il devient allié avec les crimes organisés italiens, la famille Torrio. Et ce qui est important pour la carrière de Al Capone, c'est qu'il devient bootlegger pendant la Prohibition. Il fait venir de l'alcool en masse du Canada et ça deviendra son principal commerce pour la suite des choses.
La fucking Sleeman. Tu sais, quand il se vantait dans l'annonce de Sleeman qu'il vendait de la bière aux États pendant la Prohibition, c'était à lui qu'il vendait la bière, là.
En plein ça, il achetait du whisky, de la bière. Et là, à un moment donné, Al Capone arrive en prison. Il contient dans son CV syphilis et gonorrhée, ainsi que sevrage de cocaïne. Et là, c'est là que j'attire votre attention.
Oui.
Son sevrage de cocaïne était tellement important qu'il y avait un trou au niveau du septum. Tellement il en prenait.
Ben,
alors, on a plusieurs septums ici qui sont percés. Allô, Al Capone?
Ben, moi, tu vois, pour l'agrandir, il faut que je me colle une nouvelle pin. Fait que tout va bien. Mais c'est vrai ce que tu dis. Je connais malheureusement une fille qui a été obligée d'aller se faire faire une rhinoplastie.
Ouais.
Parce qu'elle a trop été rock'n'roll. Trois pistas, c'est rock'n'roll.
Ah oui.
Ça n'a pas l'air d'être ça, là. Mais,
ben, non, je te crois.
Mais c'est rock'n'roll. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que oui, c'est. Les dommages de la drogue, c'est mal, vous voyez.
Mal.
Voyez. Et en 1934, Al Capone a été transféré à la prison d'Alcatraz, qu'on connaît pour son architecture et sa difficulté de s'échapper d'eux.
C'est ça.
Et là, vient le lien alambiqué. Al Capone, Alcatraz, jouait du banjo dans le groupe Rock Islanders.
Même le pire lien ever!
Non!
et le groupe.
Ton bord, puis ouais!
C'est le pire lien ever! Même Sony, man! Il y a des liens moins alambiqués que ça!
Et Al Capone joue du banjo dans le band Rock Islanders qui faisait des shows pour les prisonniers le dimanche. Alors, je me suis dit, black metal et banjo, c'est sûr que ça n'existe pas.
Non, là, ça s'est fait.
Là, je vais sur Google et on va entendre, bien évidemment, la band Talk.
Talk!
qui est née en 95 en Norvège, de l'album Novugsvapen, qui est sorti en 2011, la pièce Myr, où il y a un solo de banjo qui est totalement délicieux.
Oui, puis c'est le gars d'Alain et Manchot qui le joue, puis c'est sa coche.
Ben, mais hein.
On s'en va entendre ça.
Let's go!
Écoute, cette toune-là, moi, je suis un fan de Taki depuis le début. Là. C'est, je pense, en tout cas, ça a longtemps été mon band de black metal préféré. Je pense que c'est encore ça. J'ai pas vraiment trouvé de band qui a réussi à tasser ça en termes de qualité.
C'était ça, c'était au Liaro, moi.
Ah, oh, tu viens de semer le doute, là. Ah. Mettons que c'est quoi. Mais je me rappelle que quand cet album-là est sorti, puis que la toune Mire est sortie, il y a beaucoup de monde qui déchirait leur chemise. Mais c'est parce que le bout qu'ils n'ont pas compris, c'est que le gars qui adore la polémique. Tu sais, c'est... La première photo... Ouais. Tu sais, la première fois que j'ai parlé de ça à mon frère, j'ai un de mes frères plus jeunes qui trippait black metal plus dans le temps, puis je lui dis, hey man, faut vraiment t'écoutes ça. Puis là, je marque sur Google, taqué, puis la première photo qui pop,
ouais,
c'est lui en bédaine avec des jeans, mais avec la fourche percée.
La fourche percée.
Ouais, avec le kit, tu sais, à l'air. Et là, t'as mon frère qui fait, ouais, comme première image, on aurait pu trouver mieux. Mais tu sais, mais c'est ça.
Il se monte à le FedEx, celui-là. Là.
Ben, oh, ouais. Mais le gars, sérieux, il a vraiment usé de la... Tu sais, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en.
Ah, ouais.
Il en a fait son modo, là. Puis, ben, ça fait qu'il est rendu ce qu'il est rendu. Fait que,
et voilà.
Tout est pas d'accord. OK, la graine avant, c'est une affaire. Mais le solo de banjo, moi, je me souviens quand j'entends ça.
Je l'aime, moi, le solo de banjo.
Première fois, j'ai fait... Oh, c'est audacieux.
Ah là, non, moi, je l'aime.
Mais en show, comme je disais, c'est rendu intégral, là. C'est dans ta face.
Parfait. Non, non, je suis pas d'accord. C'est pas vrai. Non, pour vrai, c'est juste que l'image de semi-graine à l'air, moi, c'est comme une garde.
Non, non, mais c'est le gars qui cherche la controverse. Il y a tout le temps... Tu sais, il s'est fait bannir en Allemagne parce qu'à un moment donné, il s'était peinturé une swastika sur le chest, mais tu sais, je veux dire, là-bas, tu peux même pas appeler un enfant Adolphe, là, tu sais, je veux dire, tu vas en prison. Puis là, il y a eu de la merde avec ça, mais tu sais, au final, tout le monde m'a parlé.
Ben, c'est ça.
Fait qu'il a atteint son but.
Ça a marché.
Ouais. Et là, ça nous amène à ton troisième fait. Oh, t'as un peu que je trouve ton petit classeur.
Et d'ailleurs, pour mes recherches pour taquer, tu vois sur YouTube les vidéos, tu sais, la musique arrête, les lumières baissent, et là, le gars s'en va en arrière, enlève sa guitare, met son banjo et tout le monde vire fou. Bref!
Ben, oui! Tout à fait! Ben oui. Sérieux, moi, je
suis
pas d'accord avec ça, moi.
Alors, le 4 mai 1904, c'est la fondation de la compagnie Rolls-Royce. Hein, des autos qu'on ne pourra jamais se payer chacun de nous. Même ensemble, toute la gang, on ne pourra jamais se payer ça.
Non.
Alors, Charles Royce rencontre...
Tu penses ça, toi? T'as assez de rien pour ça, toi.
Il dit...
OK, je te laisse aller.
Alors, comme je disais, Charles Rolls rencontre Henry Royce à Manchester, en Angleterre, et ils font la compagnie Rolls-Royce. Et là, c'est un peu bizarre parce que il crée des autos, mais la compagnie Royce continue à faire des moteurs. Alors, en mars 1906, Rolls-Royce lance le Silver Ghost, qui, en à peine un an, est décrété comme la meilleure voiture au monde.
En quelle année, ça?
En 1906.
Ouais, là, en 1906, Ford n'existe même pas. Puis tu as deux, trois compagnies italiennes puis deux, trois compagnies allemandes.
Puis ça ressemblait beaucoup à la Ford T, là, t'sais, les deux gros spots en avant, les quatre roues, donc c'est ça. Mais ce qui fait la valeur de Rolls-Royce, c'est vraiment ses moteurs parce que, d'ailleurs, à la Première Guerre mondiale, il invente un moteur aérien qui s'appelle le moteur Eagle, qui est utilisé par les Alliés pendant la Première Guerre mondiale dans les avions.
Pour les avions, OK.
Et un des modos de Rolls-Royce, c'est, je trouve ça super intéressant, à 60 miles à l'heure, le son le plus fort dans une Rolls-Royce est le son de l'horloge électrique. Pour dire à quel point la cabine est bien insonorisée et que tu n'entends absolument rien.
Moi, j'entendais juste le moteur pif, paf, pouf. Je me disais, what the fuck que tu entends le cadran?
Absolument rien.
Ils ont réussi à bien padder la cabine.
C'est ça. Et j'ai une image d'ailleurs, je ne sais pas si tu peux la sortir. Oui, Sarah Davis. Elvis Presley avec sa Rolls-Royce. Donc, plusieurs stars du monde musical ont des Rolls-Royce, dont Lady Gaga, Jay-Z, Justin Bieber, 50 Cent. Et là, on ne jouera malheureusement pas une reprise natale de ces bandes-là.
C'est ça, toutes des bandes qu'on ne passera jamais dans Ars Macabre. Les métalleux, ils n'ont pas les moyens de s'acheter ça.
Ben, par contre, je me suis dit, c'est ça le lien alambiqué, je me suis dit, quel personnage black metal pourrait bien conduire une Rolls-Royce?
Excellent bête!
Il s'agit bien évidemment de Nurgle de Behemoth.
Beaucoup de croquettes pour chiens, beaucoup de café.
T'es capable de t'acheter ça.
Et là, je suis allé dans vraiment le Behemoth que j'aime beaucoup parce que je le cacherai pas qu'au Cégep en 2003, j'aimais beaucoup Demigod et tous ces trucs-là. Mais je suis revenu sur la carrière de Behemoth qui est né en 91 en Pologne. Et j'adore d'amour. J'ai réécouté récemment l'album From the Pagan Vastlands.
Ah, il est sorti tellement bon.
En 94. Et on va aller écouter pour les gens qui ne connaissent pas cet épisode-là, cette époque-là ben, de Behemoth.
C'est l'époque où il est jeune. Pis c'est du black metal, c'est pas du death.
C'est du true black, c'est vraiment, c'est crasse, c'est raw. On va aller écouter Summoning of the Ancient Ones. Et ceux-là qui ont vu le show la semaine dernière, pas sûr qu'ils l'ont joué.
Non, puis ils reconnaîtront pas ça. On s'en va entendre ça. On est loin de la production actuelle du band. Mais en même temps, si tu regardes ça avec la perspective du quoi 30 ans à peu près, là, ça fait 31 ans que ça vire. Fait que tu sais, il y a une évolution indéniable. Puis tu sais, il est rendu à quelque part. Probablement que le Adam de l'époque, là, de son vrai nom, si tu avais demandé, tu vois ça où dans 30 ans? Je pense que même lui, il n'aurait pas eu l'ambition de voir ça gros comme c'est rendu aujourd'hui.
Puis de vendre des croquettes pour chiens.
Ouais.
Puis même, c'est une autre histoire. Musicalement, les derniers albums de Behemoth sont quand même relativement bons comparé, mettons, à ce qui est venu, à ce qui est devenu Dimmu, à ce qui est devenu plein d'autres bandes.
Mais
De Satanist, c'est quand même un bon album, malgré tout.
Oui,
mais c'est, tu sais quoi mon reproche des derniers albums de Behemoth? C'est des albums qui sont faits pour le live. Tu l'entends chez vous, dans ta cuisine, en faisant la vaisselle, qu'il y a un bout qui est fait pour faire des « Hey! Hey! » Puis ben moi, je frotte mes assiettes, fait que je fais pas « Hey! »
Époque!
Non, mais il y a vraiment... Dans l'approche des tunes, tu vois que ça a été composé pour être joué en tournée, pour être. Lui, là, il est rendu les deux bras embarqués dans l'engrenage de la tournée. Là, c'est
pas le choix.
L'album, tu sais, l'album pour faire de la tournée, pour refaire de la. Le cycle infernal de sortir des albums pour tout le temps rester sur la route. Tu sais, ça va chercher le monde que ça allait chercher, puis ça va pas chercher le monde.
Ça va pas chercher tout le monde, ça, c'est sûr.
Tu sais, qui était peut-être là au début, puis qui aimait le côté peut-être plus... je veux pas dire atmosphérique, parce qu'il y a tout le temps eu un fond quand même technique dans cette band-là.
C'est vrai.
Mais tu sais, il y avait un son crasse, puis tout, ça s'est professionnalisé, puis là, c'est rendu qu'un son très, très studio, très propre. Tu sais, tripler les vocaux, là, tout le temps. C'est beau sur un album, mais live, là, t'es tout seul à chanter, ça paraît, là.
Oui, le son est complètement
différent. Moi, je suis de l'école de si t'es pas capable de reproduire ton album en live, sors-les pas de même.
Tout à fait.
Puis ben,
je suis d'accord.
Eux sont rendus à une coche où c'est pas. C'est une adaptation de la chose.
Ou c'est les autres membres.
Non, c'est lui. Je pense qu'il y a un des doubles qui fait des backs.
OK.
Mais tu sais, t'as trois tracks de vocales principaux tout le temps. C'est sûr que quand t'arrives en show, ça sonne plus mince, là. Ça n'a pas le choix. Ça n'a pas le choix.
Aussi, à un moment donné, faisait ça. Là. À un moment donné, t'étais comme, hey, ça va, là, ton petit effet radio, puis ces affaires-là.
Mais en même temps, il y a du monde qui aime ça. Là. Mais, puis tu sais, je ne juge pas ces gens-là, mais je trouve que, personnellement, je trouve que c'est triché parce que tu n'es pas capable de rendre le produit de ton album. C'est une des critiques qui arrivait souvent dans le temps avec Cradle.
Dans
le temps, tu sais, de Dusk puis Cruelty, le monde allait voir en show, puis il disait. Bordel, ça sonne donc bien mince à comparer sur l'album. Ouais, mais l'album, il doit avoir 125 tracks, une toune.
Ouais, à ça, le keyboard, il pèse un piton puis il joue par-dessus, là. Tu sais, des fois. Sérieusement, là, ça a sauvé les deux derniers shows que je suis allée voir, d'avoir comme enregistré la track live dans le show précédent d'un musicien, ça l'a sauvé la prestation. Je prends par exemple The Ocean. Okay. Que le chanteur s'est littéralement pété deux jambes. Fait qu'il a pas pu se pointer. Il a quand même fait un show en chaise roulante. Il voulait continuer à faire la tournée. D'un moment donné, il a comme fait, bon, ben garde, je pense que je vais retourner chez nous. Hein. Il n'y avait pas le choix.
Ouais.
En fait, ils voulaient continuer. Fait que finalement, il y a quelqu'un d'autre. En fait, leur tour manager est capable de chanter. Fait qu'il l'a fait. Mais il y a d'autres tracks au travers qui l'ont sauvé. Et même chose pour Leprous. Okay. Leprous aussi, leur bassiste a dû quitter la tournée comme quelques jours avant que ce soit de passage à Québec. Et c'est ça, la dernière fois qu'ils ont joué live, ils ont comme také la track, puis ils l'ont comme gardé. Fait qu'ils l'ont... On entendait la baisse pareil, mais il était pas là. Fait que ça peut... Maintenant, là, dans le côté actuel, ça peut quand même sauver une prestation plutôt que de sonner de la merde, de se trouver un musicien dernière minute qui risque de faire chier le show, puis que tu peux continuer pareil.
Je sais pas si je suis d'accord avec ça. En fait, non.
Non, mais en tout cas, ça sonnait pareil. Ça sonnait pas pareil. Ouais. Je comprends que... Oh, mais ça, c'est sûr que ça enlève quelque chose. Ça enlève quelque chose, puis on est comme... Ah, il est pas là. Tu sais? Mais
ça fait longtemps que Gene Simmons ne joue plus ses tracks de bass.
Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait grand-chose à part empocher les chèques. Hein?
Ouais. Mais voilà, c'était mes deux scènes.
Ouais.
Puis aussi pour Behemoth, t'as Inferno qui joue en arrière, qui est un attrait en lui-même, là, de le regarder jouer, puis de l'entendre. Fait que tu sais, c'est une petite anicroche que tu fais comme t'attires ton attention plus vers lui que sur la prestation globale aussi.
Oui, puis tu sais, il est rentré sur le quatrième album qui est Seven quelque chose, là, je me souviens plus le nom. Là. En tout cas, il est rentré sur le quatrième album, puis tu le vois vraiment dans la carrière de Behemoth. Ça l'a pogné totalement une autre direction. Là. Oh oui, ils ont pogné en puissance. Puis à partir de là, le côté plus... Il s'est tourné progressivement vers le death plus que le black. Tu sais, Behemoth, c'est un peu comme Morgue, là. C'est du death metal à corpse paint.
Mm-hmm.
Ouais.
Tu sais, je compare pas Morgue à Behemoth, ça n'a aucun rapport. Là. Mais tu sais, je veux dire, c'est des bands qui ont starté black metal avec du corpse paint puis qui l'ont gardé, mais qu'aujourd'hui, font du death metal. Un Ben sortirait... Tu sais, mets un autre logo que Behemoth sur le dernier album, là, puis mets des gars avec des corps paint, puis le monde va faire « Faites-le, man, c'est du debt. »
Oui.
Ben, en tout cas, moi, je trouve...
Oui. C'est ça. Il y a des concepts dans la vie que tu fais comme « Bon, ben, coudonc, ça marche, puis on y va avec ça. »
Mais en même temps, tu sais, on disait le Ben a 31 ans, là, c'est...
Ben,
à un moment donné, t'évolues, là, toi et tout, puis tu sais, c'est... Tu suis ta ligne, puis... suivront ceux qui veulent suivre, puis ceux qui débarqueront.
Absolument.
Fait que, bref. Excellent, ligne alambiquée. Je te regarde avec ta calotte des Bulls, ça me donne le goût de sortir la mienne.
Ben, ça fait longtemps qu'on a débarqué, nous autres, de Behemoth, mais bon, on les salue quand même.
Ouais.
Et merci les dieux de l'Internet de m'avoir laissé aussi de temps avec vous. Je suis très joyeux.
C'est vrai?
Et ma prochaine présence sera, je le pense, en studio, si les dates confient.
Yeah.
Alors,
ou peut-être dans le souterrain, dépendamment de comment ça va fitter.
Ben, ça, c'est pas en présentiel, mais dans l'Ars Macabre, ça
en présentiel. Ce mot-là,
de l'entendre.
Le présentiel, ça devrait être comme la CAQ, là, ça devrait passer au feu, puis on n'en parle plus.
Je suis capable présentiel. En salle.
Alors, je serai tout en party le mois de mai à Ars
Macabre. Ça, écoute, là, on jase.
Yes.
Hey, merci, puis ouais.
Plaisir.
Je te souhaite une bonne soirée, puis on s'en jase dans deux semaines. C'était donc la chronique de PY depuis son ordi à poche. Et là, ben nous autres, on s'en va entendre des Russes avec des gros accordéons
pour
faire le petit wrap-up. Je vous rappelle, il vous reste encore quelques minutes pour aller répondre à la question de la semaine. C'est quoi la question de la semaine?
La question de la semaine, c'était quel animal incarne une symbolique particulière pour vous?
Le bordel! Oui. Les deux miens y ont sorti.
Sont sortis?
Batins!
Batèche!
Bref, on s'en va écouter des Russes et on vous revient avec justement ma réponse, la réponse de Sarah, la réponse des auditeurs. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
Rouyan! C'est Rouyan qu'on va entendre. L'album, c'est sorti en 2014 et la pièce qu'on va entendre, c'est Bouza.
De retour en studio, donc on vient d'entendre Suicidal Angels, excusez, et la pièce s'intitule Image of the Serpent, sortie sur l'album Division of Blood en 2016. Et là, ben nous, on arrive en fin de show, on fait un petit retour sur la question de la semaine. On vous demandait, c'est quoi votre animal totem? C'est quoi l'animal dans lequel vous vous reconnaissez le plus? Et je m'attendais à beaucoup de réponses de loup, et finalement, non. Donc, je veux saluer les deux auditeurs qui sont allés hunker mes animaux. Donc, Alexandre Richer qui nous dit le harfan, juste parce que c'est un bel oiseau. Effectivement, c'est un bel oiseau, c'est majestueux. Et notamment, je sais que dans la mythologie amérindienne, c'est souvent associé à des présages de mort. Donc, le harfan des neiges. Et sinon, il y a Chris qui nous dit l'ours chez les Inuits, on le surnomme le grand-père de la forêt. L'ours qui est aussi l'ours brun, qui est un des animaux principaux dans la mythologie scandinave, pas scandinave, mais germanique, avant le christianisme, évidemment. Donc, l'ours pour Christian. Et il y a Roxane qui nous dit le chien saucisse. Donc, on salue Gugu, son teckel, qui peut-être écoute l'émission. Donc, salut Gugu. Et là, ben, c'est ce qui fait le tour sur la question de la semaine et vos réponses. Je vous rappelle, pour les gens qui voudraient partager Ars Macabra, on est disponible sur la page de CGMD, mais aussi sur notre propre blog. C'est de arsmediaqc.com. Il y a également Le Souterrain, qui est le podcast officiel Ars Macabra que j'anime notamment. Et il y a des chroniques, notamment avec PY. Il y a aussi une foule d'autres chroniqueurs qui viennent nous jaser de différents sujets. Bref, on a un nouvel épisode qui s'en vient pour pas cette semaine, probablement la semaine prochaine. Donc, c'est à suivre pour ça. Et nous autres, on finit ça en musique. Avant de finir en musique, c'est vrai, je voudrais remercier, premièrement, PY pour les réseaux sociaux et sa chronique. Merci à Valérie pour sa chronique Extremo. Et merci à Sarah qui a dû nous quitter un peu plus tôt ce soir. Sarah qui fêtait son 100e épisode dans Ars Macabra. Chapeau à elle. C'est quand même la co-animatrice que t'as fait le plus longtemps de l'histoire du show avec moi. Je sais pas qui t'offre qui, mais bref, on a une super bonne chimie et j'adore ça. Donc, merci Sarah. Et nous autres, c'est ça. On finit ça en musique avec un groupe qui est suédois. Ça s'appelle Svartin. Et la pièce, ça s'appelle Seven-Headed Snake. Sur ce, merci à tout le monde d'avoir été là encore une fois. Puis nous autres, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour encore plus de métal.
lights.